pour le message de la Bible, Sacha. Merci.
Merci pour l'invitation. Cette semaine, j'étais, je travaillais et après le travail, je suis rentré chez moi. Donc, je travaille sur Paris et je me trouvais à Gare de Lyon et je suis monté dans un train qui était déjà à quai. Je partais dans 3 minutes environ. Le train n'était pas encore parti. Et pourtant, je me suis préparé, je suis monté dedans, je me suis installé, persuadé que du coup, j'allais faire mon voyage pour arriver à destination. J'étais déjà un voyageur, mais je n'étais pas encore arrivé au bout de mon voyage. Tout ça pour illustrer que la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Nous sommes déjà rachetés, enfants de Dieu, mais on n'est pas encore ce que nous serons dans l'éternité. Nous avons encore du chemin à faire. Et dans cette marche, sur ce chemin, que ce soit au départ ou sur le chemin, qu'avons-nous besoin? Paul répond à cette question. Il répond à cette question dans le texte que nous allons lire ce matin. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 1 à 14. Donc l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 1 à 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, au sein qui sont à Colosse, nos frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez les uns pour les autres à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toute œuvre bonne et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Paul ici reconnaît l'unité qu'il a avec les chrétiens de Colosse. Il est reconnaissant de ce que produit l'Évangile chez les Colossiens et il va prier pour leur croissance. Il va leur rappeler que l'Évangile qu'ils ont reçu, c'est tout ce qu'ils ont besoin dans leur marche avec Dieu, dans leur vie chrétienne. L'Évangile, c'est ce qui unit. C'est ce qui transforme et c'est ce qui fait grandir. Je vous propose de parcourir ce texte en 3 points. Première partie, l'Évangile unit les chrétiens, du verset 1 à 2. Deuxième partie, l'évangile transforme les chrétiens, versets 4 à 8. Et troisième partie, l'évangile fait grandir les chrétiens, versets 9 à 14. Notre première partie, l'évangile unit les chrétiens. L'épître s'ouvre sur une salutation. C'est une chose que nous retrouvons habituellement dans les épîtres de Paul. Et Paul se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'un apôtre ? Un apôtre, c'est un disciple de Jésus et qui a été choisi par Jésus lui-même. Nous savons que Paul n'a pas fondé l'église de Colosse, mais en se présentant comme apôtre, il leur fait comprendre que ce qu'il va dire a de l'importance. Il a une certaine autorité. Et quand un apôtre parle, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est d'écouter. À ce moment précis, Paul est en prison. Et la mention de Timothée serait sans doute que c'est Timothée qui a écrit ce que Paul lui dictait. Intéressons-nous sur comment l'apôtre Paul parle de ses interlocuteurs. Au verset 2, il dit « Aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ ». L'apôtre Paul n'a pas fondé l'église de Colosse et pourtant, il les appelle quand même frères et sœurs. Il ne connaît pas les chrétiens de Colosse. Comment se fait-il qu'il puisse les appeler ainsi ? Quel est le point commun entre les chrétiens de Colosse et Paul ? Eh bien, c'est la foi en Christ. Autrement dit, dans la confiance qu'ils ont placée dans le message de l'évangile. En l'évangile, nous avons des frères et sœurs. Le point commun entre Paul et les chrétiens de Colosse n'est pas qu'ils ont des loisirs communs, ce n'est pas qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt, ce n'est pas tout ça. En fait, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est leur foi en Jésus. Et c'est en cela qu'ils appartiennent à Dieu. C'est l'évangile de Christ qui unit. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, chrétiens, ce n'est pas que nous aimons les mêmes choses, et j'imagine qu'on n'aime pas tous la même chose. Ce n'est pas que nous ayons les mêmes centres d'intérêt. Ce n'est pas que nous soyons de la même communauté, et on peut le voir au premier coup d'œil. C'est simplement ce qui nous réunit, c'est la foi en Jésus que nous avons. C'est la foi que nous avons placée dans l'évangile, et rien d'autre. L'objet de notre unité, c'est l'évangile. Si on regarde les gilets jaunes aujourd'hui, les manifestants sont issus de toute catégorie sociale. Personne n'est pareil. Personne n'a le même âge. Personne n'a le même travail. Personne n'a le même salaire. Mais pourtant, tout le monde est uni pour la même cause. Ensemble, ils ont plus de poids. Ils peuvent se faire entendre. Ensemble, ils peuvent s'entraider. Ensemble, ils vont plus loin. L'apôtre Paul formule ses salutations en disant que notre Père vous accorde la grâce et la paix. La formule grâce et paix mélange la salutation grecque qui est grâce et la salutation juive qui est paix. Et c'est bien ces deux éléments qui sont au cœur de l'évangile. La grâce et la paix s'expriment parfaitement en Jésus. En quelques mots, l'apôtre Paul nous fait un condensé de l'évangile. Dieu veut faire grâce et communiquer la paix. L'apôtre leur rappelle que leur point commun, c'est l'évangile de Jésus-Christ et rien d'autre. L'évangile, c'est ce qui unit les chrétiens et qui doit se voir dans la vie. Et c'est ce que nous voyons, ce que nous verrons dans notre deuxième point. Deuxième point, l'évangile transforme les chrétiens. L'apôtre est reconnaissant envers Dieu pour les chrétiens de Colosse. Mais de quoi est-il reconnaissant ? Il a entendu parler de l'amour qui les anime. Le vrai sujet de reconnaissance de Paul ici, c'est l'œuvre de Dieu chez les Colossiens. Paul est dans la joie de voir les qualités chrétiennes que les Colossiens manifestent dans leur vie. L'attitude de Paul devrait être un exemple pour nous. Rappelons que Paul est, au moment de la rédaction de la lettre, est en prison. Et étant en prison, on ne savait pas quelles étaient ses conditions d'incarcération. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'étant en prison, il ne pouvait plus librement annoncer l'évangile. Il ne pouvait plus faire ce qu'il aimait tant faire. Mais pourtant, il continue d'avoir une attitude de reconnaissance. Même dans les moments difficiles de notre vie, il y a toujours de quoi être reconnaissant. La foi et l'amour des Colossiens, elle est fondée sur l'espérance des cieux. Les trois sont indissociables. L'évangile, ce n'est pas seulement un message pour être sauvé de la colère de Dieu. L'évangile, c'est l'espérance de goûter aux promesses de Dieu dans l'éternité. C'est de ressusciter d'entre les morts, d'avoir un corps incorruptible, de ne plus vivre de moments de douleur et de peine, de jouir d'une pleine relation avec notre Seigneur Jésus et de le voir tel qu'il est. Cela nous pousse à nous aimer les uns les autres. L'apôtre Paul est reconnaissant de voir que ce qui ressort de la vie des chrétiens de Colosse, c'est l'amour. Il met en évidence que ce qui caractérise le fait que des personnes ont reçu et accepté l'évangile, c'est qu'il y ait un changement visible dans leur vie. Je ne sais pas si dans une église à New York, on parle de la Garenne comme une église aimante, mais ce serait fantastique. Il devrait y avoir un réel changement dans notre comportement dès lors que nous prenons conscience que nous appartenons à Dieu. Il devrait y avoir un changement visible de telle sorte que les autres qui nous regardent puissent voir que nous sommes remplis d'amour. Il y a quelques années, dans mon église, nous avions un étudiant en théologie qui arrivait à sa dernière année d'études. Et lui et sa famille ne pouvaient plus assurer financièrement cette dernière année. Et c'est là que plusieurs membres de l'église ont mis en place une aide financière pour toute l'année, afin qu'il puisse terminer ses études. Malgré le niveau de vie de chacun, ils n'ont pas hésité à aider. Et merci Seigneur, car aujourd'hui, il a terminé ses études et il est pasteur. C'est en cela que je vois l'amour dans mon église. L'amour dont il est question dans ce texte, c'est un amour qui accueille ceux qu'ils ont rejetés. C'est un amour qui prend soin des nécessiteux. C'est un amour qui pardonne ceux qui nous ont offensés. C'est un amour qui fait qu'on se donne aux autres. N'avez-vous pas des sujets de reconnaissance pour l'amour dans votre église? Au verset 6, l'apôtre Paul est intimement persuadé que la bonne nouvelle progresse et fait porter du fruit là où elle est annoncée. Et ce que je trouve admirable, c'est de voir une personne entendre le message de l'évangile, de l'accepter et de voir que sa vie change radicalement. Il n'y a que l'évangile qui peut faire ça. Lors d'un camp, je me rappelle que lors d'un camp chrétien, notre orateur Mathieu Gangloff, qui est pasteur en Vendée et aumônier, nous a raconté comment l'évangile a complètement changé la vie d'un prisonnier. Je ne saurais plus comment s'appelle ce prisonnier, mais on va l'appeler Gérard. Il passait du temps avec Gérard dans sa cellule pour lui parler de la Bible, lui expliquer le message de l'évangile. Et au bout de quelques semaines d'entretien, il reçoit un courrier. Mathieu reçoit un courrier dans son casier. « Merci pour votre temps, merci pour le message de l'évangile. J'ai compris à quel point j'étais pécheur et je veux accepter la grâce que Dieu m'offre en Jésus. » Signé Christian. Quoi ? En fait, pendant toutes les séances entre Mathieu et Gérard, Christian, qui était le co-détenu, sur le lit superposé du haut, écoutait et a été touché par le message de l'évangile. À partir de ce moment, cet ancien drogué a tout laissé tomber pour suivre Jésus. Un changement de comportement visible doit être la conséquence d'une réelle conversion à Christ. L'évangile, c'est ce qui transforme les chrétiens. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est ce que nous verrons dans notre dernier point aujourd'hui. Donc notre troisième et dernier point, l'évangile fait grandir les chrétiens. Après sa prière de reconnaissance, Paul va prier pour la croissance des chrétiens de Colosse. Au verset 9, il demande à Dieu de les faire grandir dans la compréhension de sa volonté. Paul souhaite qu'ils comprennent intellectuellement le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est le message de l'Évangile. Une telle compréhension permet ensuite, dans un second temps, de vivre comme ce que le Seigneur demande. De vivre une vie qui plaise à Dieu. Une compréhension théorique débouche sur une vie de pratique. Et à quoi va ressembler cette vie de pratique ? À quoi va ressembler cette vie qui plaît à Dieu ? Et Paul va lister trois façons dont se traduit un comportement digne du Seigneur. Premièrement, porter du fruit. La connaissance de la volonté de Dieu nous pousse à toujours plus porter du fruit. Les œuvres font suite à une foi authentique. Nous ne pouvons lister les bonnes œuvres, tellement il y en a, mais ce serait toutes sortes d'actions qui reflèteraient la bonté de Christ envers les autres. Deuxièmement, être fortifié pour tout supporter et persévérer avec joie. Et comment on fait ça ? Eh bien, c'est Dieu qui nous équipe par sa puissance glorieuse. C'est un don de Dieu. Cela va nous permettre de persévérer contre les circonstances adverses et de supporter les gens difficiles, désagréables, avec joie. Troisièmement, exprimer sa reconnaissance. La vie chrétienne devrait être remplie de joie et de reconnaissance. Pourquoi devons-nous être reconnaissants ? Les versets 12 et 14 nous répondent. 12 à 14 nous répondent. En fait, Dieu nous fait passer dans son royaume en nous arrachant de la puissance des ténèbres par Jésus. Ce que la Bible déclare, c'est que nous vivons dans le monde créé par Dieu. Et en tant que créatures de Dieu, nous étions destinés à vivre une vie avec Dieu et pour Dieu. Mais le péché est entré dans le monde. Le péché veut dire rater la cible. Nous qui devions vivre une vie pour Dieu à la base, on a raté cette cible. Et on a décidé de vivre comme s'il n'existait pas. Le péché, c'est refuser que Dieu ait son mot à dire dans notre vie. À cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu et de ses promesses. Et si nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes contre Dieu, malheureusement. L'apôtre Paul considère qu'il n'y a pas de camp neutre. On passe des ténèbres à la lumière. Et si on est contre Dieu, en fait, on voit qu'on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir parce que si nous réfléchissons sincèrement à notre vie, qui est à la première place dans notre vie ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est nous-mêmes ? Je pense qu'on a tous la réponse à cette question. C'est nous qui sommes prioritaires dans notre propre vie. Cela va impliquer qu'un jour, en rejetant Dieu, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. On devra répondre de notre comportement. Et comment fait-on pour se sortir de cette situation ? Eh bien, c'est Dieu qui nous arrache de notre condition de pécheur. C'est lui qui nous délivre, comme il appelle, de la puissance des ténèbres, pour nous faire entrer dans son royaume. Et comment Dieu peut faire ça ? En fait, ça s'est fait dans la douleur. Ça s'est fait dans la douleur car le prix qu'a payé Dieu pour nous racheter, c'est la vie de son Fils à la croix. C'est la vie de son Fils Jésus-Christ. Jésus est venu vivre la vie que nous devions vivre, c'est-à-dire une vie d'obéissance parfaite à Dieu. Et pourtant, il est mort à la croix. Lui qui n'avait commis aucun péché, il est mort pour nos péchés. Jésus a payé le prix que nous devions payer pour notre désobéissance. Et c'est comme ça que Dieu nous rachète. Et si ceux qui placent leur confiance dans ce que Jésus a fait à la croix, ceux-là sont pardonnés de leurs péchés. Ils sont dès à présent des citoyens du royaume de Dieu et peuvent prendre part pleinement à l'héritage que Dieu réserve dans les cieux. Voilà pourquoi on ne peut qu'exprimer notre reconnaissance en se rappelant ce que Dieu a fait pour nous. L'évangile, c'est ce qui fait grandir dans la compréhension de la volonté de Dieu et dans le but de vivre une vie qui plaise à Dieu. Cette vie qui plaît à Dieu, c'est une vie qui porte du fruit, qui puisse supporter et persévérer dans l'adversité avec joie et de vivre une vie de reconnaissance. Pour conclure, Paul rappelle aux Colossiens qu'ils ont déjà le privilège d'appartenir à Dieu après qu'ils aient reçu l'évangile. Et Paul est vraiment reconnaissant de voir que l'évangile change leur vie. Il voit les fruits que produit l'évangile. Mais ce n'est pas tout. Paul demande à Dieu qu'il continue de grandir continuellement. Ils sont encouragés à aller plus loin dans leur marche chrétienne. Il va leur rappeler que l'évangile qu'ils ont reçu, eh bien, c'est tout ce qu'ils ont besoin dans tous les aspects de leur vie, pour maintenant et pour l'avenir. L'évangile, c'est ce qui unit, c'est ce qui transforme et c'est ce qui fait grandir les chrétiens. Et comment ce texte peut-il nous encourager aujourd'hui? Eh bien, comme Paul, nous pouvons être reconnaissants de voir que Dieu est à l'œuvre et transforme réellement des vies. Ce sont des vrais sujets de reconnaissance que nous pouvons adresser à Dieu. Nous pouvons aussi faire de la prière de Paul pour les Colossiens la nôtre. Nous pouvons demander à Dieu de nous faire grandir dans la compréhension de sa volonté, afin de toujours mieux vivre une vie qui plaise à Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, merci pour cette matinée où nous avons le privilège de parcourir ta parole et le privilège de découvrir toutes ces richesses. Et merci Seigneur parce que nous sommes tous différents et par l'évangile, tu nous réunis. Merci Seigneur parce que par l'évangile, tu transformes des vies. Et merci Seigneur parce que par l'évangile, nous pouvons toujours continuer à comprendre mieux ta volonté afin de vivre une vie qui te plaise. Et j'aimerais que ce matin, cette parole puisse toucher le cœur des gens, que nous puissions comprendre, pas avec ta sagesse et ton intelligence, ce que tu veux nous dire dans notre vie. Et Seigneur, je te remets toutes les personnes présentes ici, aujourd'hui, entre tes mains. Protège-les, garde-les tout au long de cette fin de week-end. Et je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.